en fait. Là, j'enregistre le son de l'eau.
Ah, ouh, c'est beau ça. Moi, je trouve beaucoup ici. Mais j'ai pensé sur moi.
C'est de la radio.
Chloé, Lola, Lisana, Robert, 7 ans et demi, 7 ans, 7 ans, 8 ans et 3 demi.
Marius,
Elisa,
Arsène,
j'aime les calculs, lire, les dictées, maintenant j'aime les mots conjugués, des calculs de son, et après pour finir, les mots alphabétiques. Voilà.
J'aime les séries. Qu'est-ce que les séries? Je me souhaite bien.
Moi, la première fonction de l'école, c'est apprendre à vivre ensemble. Apprendre à être plus tard un adulte qui se sent bien au milieu des autres. C'est d'abord un lieu social.
Tilia.
Laura.
Moi, Lisa.
Noah.
Splash.
Après le confinement lié au coronavirus, au printemps 2020, beaucoup de gens se sont dit portés par le désir de changer le monde dans lequel nous vivons. Depuis quelques années, circule l'idée que les combats sociaux, culturels et écologiques sont liés entre eux. Qu'on ne peut changer notre rapport aux autres sans changer notre rapport au vivant en général. La pandémie du printemps, les masques et les gels que nous utilisons posent à nouveau cette question du projet collectif. Qu'avons-nous à vivre ensemble? Que partageons-nous? Que se passe-t-il quand nous sommes amenés à vivre ensemble, parfois sans nous dire bonjour? Les regards que nous portons sur nos semblables sont-ils doux et accueillants ou bien chargés d'inquiétude? Après l'épisode de la piscine au mois d'août 2020, j'ai poursuivi ma recherche sur le territoire et je suis allée, en janvier 2021, à la rencontre des enfants et des adultes qui fréquentent les écoles primaires de Solomiac, Saran et Montfort. Portrait d'une partie du Gers, de la Gascogne, ces échanges que j'ai enregistrés permettent aussi, je crois, de se poser la question du bonheur, du privé et du public, des rêves qui nous portent, de nos utopies. L'école est un endroit magique ou cauchemardesque. Elle rassemble à elle seule nombre des premières expériences amicales ou amoureuses. Elle nous ouvre ou nous ferme au monde, parfois définitivement. Je fais partie de ceux qui ont aimé l'école, pour ce que j'y ai découvert, pour les amitiés longues que j'y ai nouées, et les figures des instituteurs et institutrices, des enseignants et enseignantes, continuent de m'accompagner à travers les années, comme les gardiens d'un monde à construire ensemble. À l'école de Solomiac, j'ai rencontré Lilou, qui m'a parlé de ses escargots, et à Lombès, Florence, une maman courageuse qui cherche une place pour sa petite fille différente. J'ai aussi rencontré Annabelle, qui développe le projet Grandir dehors, pour que les enfants sortent une fois par semaine et apprennent à observer les arbres et comprendre la nature, pour que leurs parents acceptent qu'il y ait de la boue sur leurs vêtements. À Solomiac, j'ai aussi rencontré un cantinier qui jongle avec des yaourts. Et à Solomiac encore, Tony et Céline, qui vivent en caravane avec leurs enfants. J'ai aussi rencontré Lise, institutrice et directrice de l'école, passionnée et passionnante. Pleine d'une énergie communicative, elle partage avec son équipe l'idée d'une école libre et inventive, où chacun puisse trouver sa place avec ses différences. Alors, si vous avez 20 minutes, voici le premier épisode de Splash, l'école.
Lise, je suis enseignante en classe de grande section de CP et accessoirement directrice de l'école. Ça fait 17 ans.
Les grandes sections, qui est-ce qui vient nous écrire la date aujourd'hui ?
Pas moi.
Tilia, qui n'était pas là depuis deux jours. Allez, viens. Et en plus, tu nous as dit que tu avais quelque chose à nous raconter, alors on va t'écouter.
En vrai, c'est quand même un lieu... Moi, je trouve vachement chouette de rencontres, de discutes, un lieu où moi aussi, j'apprends plein de choses. Parce que les enfants posent beaucoup de questions, que évidemment, je n'ai pas toutes les réponses. Donc, on les cherche ensemble.
Est-ce que vous vous êtes lavé les mains avant d'aller goûter ?
Non. C'est un métier pour les gens curieux. Enfin, en tout cas, qui est mieux pour les gens curieux parce que tu profites de la curiosité des enfants. C'est un métier où tu restes un peu enfant aussi. Je goûte, je mange des bonbons, j'apprends des choses, je suis contente de regarder un dessin animé avec eux, de jouer, de faire des blagues. Bon, c'est un lieu quand même où ils apprennent des choses et où je les vois grandir. Et ça, c'est magique. Moi, j'ai un niveau pour ça qui est super. Grande section de CP, c'est vraiment l'âge où ils se métamorphosent, quoi. Ils apprennent à lire, donc ils gagnent en autonomie. Ils sont hyper fiers de leur progrès. C'est un âge, c'est vraiment une classe charnière et c'est pour ça que je la lâche pas.
Ah, Tilia, tu voulais raconter quelque chose ? Mais vas-y, avant qu'on commence alors.
Il y avait une petite bête dans la niche de Gaïa.
Gaïa, c'est ton chien.
D'accord. Du coup, ça vit dans la terre ou dans un caillou. Et la nuit, ça chasse des souris. C'est un animal comme ça.
Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, Tilia ? C'est beau.
Je sais plus comment ça s'appelle.
Est-ce que c'est pas une jeunette ?
Oui.
Oui. Donc tu as une jeunette à la maison ?
Oui.
Et tu l'as vue en vrai ?
Oui, et ça s'approche jamais des maisons, pourtant.
Eh ben, dis donc, tu as de la chance, toi.
On l'a mis dans les bois.
Toi, t'es une sacrée vénarde. Eh bien, merci, Tilia.
C'est une petite école, il n'y a que 3 classes, et quand le noyau s'entend bien, les gens qui gravitent autour sont, de toute façon, ici en tout cas, parce que je sais que ce n'est pas le cas dans toutes les écoles, intégrés très facilement à ce noyau-là. On fête nos anniversaires, on se fait des petits cadeaux, on fait des repas tous ensemble. Enfin, voilà. Moi, quand le confinement, ça a été très long pour moi, pour ça aussi, quoi, hein. Les enfants m'ont manqué, mais les collègues aussi, hein.
C'est combien ça, Sophie ?
11, 12, 13, 14, 15, 16.
Très bien, 16.
C'est bon, on est 13, tout fini.
Allez, vas-y.
Mettez la date, Sophie.
Ouais, ça peut être un lieu assez magique, l'école. Parfois, le découragement, il vient du comportement ou de l'attitude de certains parents, plutôt. Parce que quand je vois que je trouve qu'ils ne donnent pas les moyens d'aider leurs enfants ou qu'ils sont méprisants avec nous ou avec ce qu'on propose, ben oui, c'est fatigant quand tu passes des semaines à monter un projet, à essayer de trouver des partenaires financiers, parce que le nerf de la guerre à l'école, c'est quand même l'argent aussi, hein. Et que tout paraît normal aux parents, tout paraît acquis, que... Alors on ne demande pas qu'on nous fasse là-haut là, hein, ni merci, c'est notre travail. Mais un minimum d'implication ou de retour. Voilà, juste un retour des parents, dire « Oh, ben, ça a l'air sympa ce que vous proposez. » Ça manque un peu, des fois.
À l'école, le début, j'aime bien.
Moi, j'aime pas me faire gronder. Et il y a des choses à la cantine que j'aime pas manger. Les épinards.
C'est bien. Après, des fois, à la cantine, j'aime pas trop le chou-fleur, mais je goûte.
J'adore l'école.
Et après,
j'aime tout.
J'aime pas trop... Je sais pas, j'aime pas trop. C'est un peu dur pour moi de faire l'écriture. Voilà.
Moi, j'aimerais que ça serve davantage à équilibrer les choses. C'est-à-dire que les enfants qui ont la chance d'être suivis, épaulés à la maison, finalement, ils n'ont pas trop besoin de nous à l'école. Hein. On est là pour les nourrir, donner des activités, mais pour la plupart, ils se débrouillent tout seuls. Par contre, les autres, ceux qui ont plus de mal, où les parents n'ont pas le temps, ou pas envie, ou pas les moyens, hein, parce que jusqu'au CP, ça va, mais après, en CM2, il y a des notions un peu plus complexes qu'on aborde. Et il y a des parents qui n'y arrivent pas, et qui ne s'en cachent pas, tant mieux, et qui nous disent « Non, moi, là, je ne peux pas l'aider. » Nous, on devrait être là pour essayer de rééquilibrer tout ça, en fait. Un peu plus d'équité. On essaie, mais en fait, on n'arrive pas à tout faire. Il y a des fois où on ne suffit pas. Moi, ça me rend hyper triste. Je perds un peu. Il y a des fois où j'ai l'impression de perdre un peu mes illusions. Quand tu démarres ce boulot, tu es plein de... Tu te dis, tu as l'impression que tu vas tout révolutionner, que tu vas sauver les enfants, les familles. Et puis au bout d'un moment, tu t'uses, en fait. Tu t'uses, tu te fatigues et tu te rends compte que tu peux pas, en fait. Tu peux pas tout faire.
Moi, j'aime bien cette école parce qu'elle est grande. On a de la place pour jouer. L'été, il y a des cerises et des pommes. Après, on s'amuse à les faire tomber avec les copines et on invente des jeux dans l'herbe.
Sarin, c'est donc l'école avec laquelle on est en regroupement pédagogique et qui a donc les CM1, CM2 avec ma copine Karine.
Alors, je m'appelle Karine Cissé et je suis directrice de l'école de Sarin, classe unique.
Une école magnifique.
Oui, il faut garder ces petites écoles, et surtout les classes uniques aussi. Il faut pas les c'est important. Et puis c'est important aussi pour la vie de village. Ça crée un lieu de vie dans le village. Et c'est bien d'avoir ces échanges aussi. Moi, il y a des habitants de Sarran qui viennent. Il y a un monsieur qui vient pour raconter, par exemple, l'histoire de Sarran. Voilà, mais c'est important l'histoire de Sarran, de Soulignac, enfin du coin, quoi. Donc, c'est important. Puis, il y en a qui vont venir m'aider pour le jardin. On va faire un jardin partager. Enfin, ils sont toujours... Enfin, pour l'école, c'est vrai que, même les habitants sont là pour soutenir l'école et ont envie de participer à la vie de l'école.
C'est une vraie, vieille, belle école avec un vrai parquet, avec un verger, avec de la place pour courir, avec une cantinière qui fait les repas...
Céline, cantinière, donc.
Et au cœur d'un petit village.
Bienvenue, donc.
Très chouette et très dynamique. Voilà, donc on lutte régulièrement pour que l'école ne ferme pas. Je ne sais pas si on sera inquiété cette année encore. On verra. On l'a été il y a 2 ans. Ça s'est bien passé pour nous. On a eu gain de cause. Je ne sais pas jusqu'à quand.
Alors aujourd'hui, c'était taboulé maison, après bon, c'était du jambon à doche, voilà, et après un gratin de courgettes, hein. Et après ça, c'était une glace, voilà, donc c'était content, sur la glace, c'est vrai qu'ils en sont friands, voilà.
J'aime manger à la cantine. Bon. On mange des pâtes.
On mange des bons trucs.
On mange de la bonne saucisse qui pique pas. Du yaourt normal.
Ils ont tout mangé. Allez, on passe alors à la vie de l'entraînement.
Alors, Versailles et Louis XIV.
Il faut que tous les enfants arrivent à faire le même exercice, la même semaine de l'année, quel que soit leur parcours, quel que soit l'instit qu'ils ont eu l'année d'avant, quel que soit... Voilà. Et donc, tu es là, tu fais passer ton évaluation et en leur disant, vous faites du mieux que vous pouvez, vous ne pourrez pas tout faire, ça n'est pas grave, on ne s'inquiète pas. T'es bienveillant, mais t'es bienveillant avec un minuteur. C'est horrible. Moi, je leur ai demandé des choses que je savais pertinemment qu'ils ne pourraient pas faire. Alors, finalement, celle qui le vit le plus mal, c'est moi, c'est pas eux. Hein. Parce qu'eux, ils ont un petit livret, ils sont contents, il y a un chrono, c'est un peu la course, c'est, tu vois, on le fait sous forme de jeu, on se prend pas trop la tête. Mais moi, à l'intérieur, c'est horrible. Moi, j'étais effondrée. Vraiment, c'est ça, c'est un espèce de sentiment de trahison, de te dire, moi, leur maîtresse en qui ils ont confiance, je leur demande en connaissance de cause de faire un exercice qu'ils sont incapables de faire. Et sur lequel les résultats vont être catastrophiques, je le sais. Voilà. C'est moche.
Maîtresse, ça peut le refaire ou pas?
Non.
Maîtresse,
c'est le tien.
De la manière dont les enfants te perçoivent, t'es quand même un peu, en tant qu'instit, la reine dans la classe, tu vois. Toi, tu sais, tu as les réponses. Maîtresse, t'es jolie, je t'aime. Oh, ton pantalon, il est beau, t'as une belle barrette. Ils sont très attentifs.
Il y en a certains qui m'appellent maman, quand même. Souvent, ça arrive, ça dérape. C'est maman, ah non, maîtresse, pardon.
Et c'est aussi là que je me rends compte que le regard des enseignants sur les enfants a quand même drôlement évolué dans le bon sens, quoi. C'est-à-dire que ceux, il y a 30 ans, on disait, non, mais là, vas-y, c'est les cancres, ils étaient au fond de la classe, à côté du radiateur. C'est un peu une caricature, mais je crois que c'était un peu ça. Aujourd'hui, ils sont quand même, il me semble, davantage pris en compte, quoi. On s'occupe beaucoup plus d'eux. Il y a un paquet d'adultes aujourd'hui qu'on n'a pas aidés. Et même qu'on a probablement massacrés, en fait. À qui, l'école, ça peut faire du bien. Ça peut faire énormément de mal. Un enseignant qui s'occupe pas d'un enfant, des fois, la maltraitance, il ne suffit pas grand-chose, quoi. Une appréciation un peu pourrie, un manque d'attention, ça peut faire des ravages. Hein.
Alors maintenant, on va passer
aux exercices
et on va prendre le
bled.
Voilà.
Le
bled.
Oh non.
Vous allez à la page 45, s'il vous plaît. 45.
Lise garde dans son bureau une photo de son grand-père en blouse d'instituteur. Mon grand-père maternel, Marcel, était aussi instituteur avant d'embrasser la carrière rugbystique. Fils de maraîcher, il suçait les pattes des poulets dans son enfance occitaine. L'école, le certificat d'études, le premier poste quelque part vers Simor, la blouse, les premiers élèves, autant d'étapes qui ont mené le petit garçon pauvre, issu d'une famille éloignée des lieux du savoir et de la culture, vers un avenir meilleur. On était dans les années 30, et l'école jouait encore le rôle d'ascenseur social. Quand je parle aujourd'hui avec Tony et Céline, les parents de Lilou, je me dis que certains y croient encore, et qu'ils ont raison. Que la partie n'est pas finie, pas gagnée, que l'entreprise n'a pas tout à fait envahi les cerveaux de nos bouts de chou, même si les réseaux semblent avoir dangereusement profité du confinement pour se faire une place dans le quotidien de nos enfants.
Moi, je voudrais bien qu'ils s'en aillent.
Moi, je voudrais qu'ils s'en aillent et qu'ils éteignent de tous ses pouvoirs.
Ça a créé autre chose comme lien avec les parents, en fait. C'était difficile et en même temps assez chouette de voir ce qu'ils arrivaient à faire avec leurs enfants, de voir qu'ils n'hésitaient pas à me solliciter pour me poser des questions. Après, au niveau du rythme, c'était très intense. Moi, je démarrais mes journées à 9h, enfin entre 9h moins le quart et 9h comme quand je suis à l'école. Je les finissais bien plus tard que quand je suis qu'en présentiel. Moi, j'aimerais avoir le point de vue des parents qui ont quand même trouvé ça un peu moins chouette que leurs enfants, pour la plupart, et qui, quand on a rouvert, nous a dit « Mais prenez-les tous, nous on peut plus, 3 mois, c'est trop long !» Et moi la première, hein, moi je suis instite, Sacha, mon fils, donc, était en CM2 l'année dernière. C'est mon métier, hein, mais c'est mon métier pas avec le mien, quoi. C'est, nerveusement, c'est hyper éprouvant. La passivité d'un enfant qui ne bénéficie pas de la... du travail avec ses pères, en fait, et des explications de ses copains, et de l'interaction avec ses copains, c'est juste terrible. le nombre de parents qui m'ont appelé en me disant « Non, mais j'en peux plus, il comprend rien, mais c'est lui qui... Il est débile ou c'est moi, je ne sais pas lui expliquer. » Je dis « Non, mais on se détend, on fait tous comme on peut, quoi. » J'ai rassuré les parents vachement, beaucoup, souvent. Tout le monde s'est un peu rendu compte que Instit, c'était un peu un métier quand même aussi, et que... voilà, t'as beau être patient et avoir les instructions pour la journée, eh ben, y a des choses, t'as du mal à expliquer à tes enfants pourquoi, comment.
Il faut que le coronavirus disparaisse.
Mes copains me manquent et mes copains. Le double corona, là, ça commence à être un peu grave, là, le coronavirus.
Quand là, le confinement, je suis un peu triste parce que je vois pas mes copains et copines.
Il y en a pendant le confinement, en grande section, ils ont appris à lire. Et puis, il y en a qui n'ont pas fait grand-chose. Donc, si tu veux, entre ceux qui ont pris vachement d'avance et ceux qui ont pris pas mal de retard, on se retrouve avec des classes avec des écarts monstrueux.
De temps en temps, je fais des fautes, mais je sais lire.
Entre les enfants. C'est le... Au niveau scolaire, c'est le plus gros dommage qui ait causé le confinement. C'est l'écart, en fait. Et ce qui m'embête le plus, c'est ça, c'est de me dire, mais combien de temps il va nous falloir pour gommer ça?
Moi, j'aimerais faire le métier de mon papa. C'est travailler dans les tracteurs, agriculteur. À notre Noël, et bien, j'ai commandé un semoir et un épandeur en grain. Sur le catalogue.
Faire le métier de son papa, être agriculteur et commander un épandeur à engrais dans le Takalog. Voilà un beau projet. Devenir archéologue, pilote de Formule 1 et pourquoi pas youtubeuse sur TikTok. L'école charrie nos rêves en bloc, comme un courant qui peut nous porter tout au long de la vie. L'école est notre première société. Notre premier exemple de vivre ensemble quand nous sommes enfants. L'école fait découvrir les autres, mais pas seulement. Elle m'a fait découvrir le théâtre quand j'étais petite fille, et cela ne m'a plus jamais quittée. L'école m'a donné un outil dont je me sers toujours. Cette année, elle nous a manqué à tous, enfants, parents, enseignants, simples citoyens, car elle est notre première construction collective et qu'elle ressemble à ce que nous sommes, miroir des déviances et des espoirs pour ceux qui naîtront après nous.
C'est vrai. J'étais nulle en sport, j'étais une catastrophe. J'avais des lunettes, j'aimais pas ça, les sports de ballon, tout ça, j'avais peur. Et j'avais un amoureux, quand on jouait à la balle au camp, il se jetait devant moi pour pas que le ballon me touche et pour me protéger du ballon. C'était, tout le monde le savait, donc tout le monde continuait à me viser. Mais en même temps, il y avait toujours Christophe qui se jetait devant pour attraper ce ballon et protéger moi et mes lunettes. Ça, et puis on avait la directrice de l'école, qui était ma maîtresse aussi de CM2. On avait remarqué avec les copains que quand on faisait sport, souvent on jouait à la balle au camp quand même, hein, parce que je pense que c'était la séance de sport de la semaine, c'était le ballon prisonnier. Et on avait remarqué que la bretelle de son soutien-gorge tombait systématiquement sur l'épaule du côté de l'équipe qui allait gagner. Donc je fais très attention quand on fait sport de mettre des t-shirts qui montent assez haut pour ne pas montrer quelle équipe va gagner. C'est resté le souvenir.
Regarde bien le tableau. Hop, tu as le modèle.
J'ai quitté l'école de Solomiac comme on quitte un lit douillet, un espace protecteur et bienveillant, un havre de tranquillité et de solidarité dans la cohue de ces derniers mois. Cette recherche radiophonique engagée autour des communs venait de prendre racine dans cette petite école, entre un cahier et un stylo.
Ben, moi je veux être coiffeuse. Ah, t'as changé de métier maintenant. Tu veux être maîtresse, maintenant t'as changé.
Splash, épisode 2, L'école. Une pièce sonore d'Hélène Maton, réalisée par Agnès Maton. Texte Arnaud Bertina et Hélène Maton. Une production de La Langue Écarlate, avec le soutien de la DRAC Occitanie, de la région Occitanie et du pays Porte de Gascogne, sans le soutien de la Société civile des auteurs multimédia. Tous nos remerciements aux écoles de Solomiac, Saran et Montfort, et à l'ALAE de Lombès, ainsi qu'à tous les participants.